Donc on est à notre deuxième cours sur Perek Tet, chapitre 9 de Igdalat HaTshuva, chapitre très 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 important. Donc le cours est dédié pour Baruch Hashem, le rétablissement de, donc on l'a dit, Sarah Hanabdika Bat Tigva. Voilà, Baruch Hashem, très bonne nouvelle. On a un mois comme ça de bonnes nouvelles qui vient de démarrer. Ouais, s'arrêter, on est au Perek Tet. Donc je vous dis toujours de s'arrêter. Mais je vais d'abord pas trop de gâcher. David, pas trop de matériel comme ça. Voilà. On reste dans le spirituel. Ah, tu l'as prévenu, c'est bien. Bon. Ok. Donc, j'étais en train de dire Perek Tet, un chapitre particulier. On explique. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est là, Teshuva Ilaha. D'accord. Et on va définir en un mot. Allez, monsieur, on se réveille. Si on est là, on profite.
Ils ont fait le 2, il est aussi bien que le 1.
Alors, messieurs, donc, tu peux t'asseoir. Donc on a expliqué que en fait, à partir du chapitre 8, Perek Tet, on est en train d'essayer d'analyser et de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est la fameuse Teshuva Ilaha. Le Zohar nous parle d'une Teshuva extraordinaire, une Teshuva magique, qui a la capacité de traiter toutes les avérotes, même les avérotes sur lesquelles, a priori, on nous dit que la seule mort, enfin, le seul pardon, c'est la mort. D'accord ? Comme, par exemple, on verra dans la suite du chapitre aujourd'hui, les pertes volontaires nocturnes. D'accord ? C'est quelque chose sur lequel le Zohar dit normalement...
Les pertes volontaires.
Volontaires. Bon, d'accord, donc c'est pas des pertes.
Un
volontaire, c'est autre chose.
Mais pourquoi elles sont nocturnes alors, c'est hyper
bon, volontaire. Nocturne, c'est
oui,
comme
non,
ça.
Mais ça veut dire c'est pour
hyper volontaire. On
les appelle les pertes nocturnes. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, d'accord, sur ça, le Zohar, il dit... Bon, on va expliquer. On verra tout ça, si Dieu veut.
C'est pas un cours sur les pertes.
Bon. Donc, on verra que le Zohar nous dit sur ça, il nous dit que normalement, sur ça, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun. C'est tellement grave... C'est plus, oui, ça, on a dit que c'est encore plus grave qu'en Vodazara. On a dit que c'est tellement grave qu'il n'y a pas de tikkun. Impossible de faire tes choix sur ça. Tu sais, il y a des choses, des fois, qui sont tellement graves, je te dis rien, mais tu m'as dégoûté. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, c'est clair. Bon. C'est toi que tu lui dis, bon, je suis énervé, il essaie de t'amener un bouquet de fleurs pour essayer de t'amadouer, ça va encore. C'est rattrapable. Mais quand il te dit, écoute, tu m'as dégoûté, là, ne fais rien, c'est bon, continue, avance, trace ta route. D'accord? Là, c'est clair. Ah, c'est clair. D'accord? Et c'est a priori ce que le Zohar nous dit sur cette avéra, par exemple. On aura d'autres avérotes. Et la seule teshuva qui peut réparer ça, c'est quelle teshuva? C'est la teshuva Ilaha. Alors, qu'est-ce que c'est cette teshuva Ilaha? Alors, on a commencé à expliquer dans Perek Tet, dans chapitre 8, que finalement, la teshuva Ilaha, c'est une teshuva qui est issue de la réflexion. Contrairement aux autres teshuva, qui sont issues, par exemple, de l'amour ou de la crainte, c'est la majorité, dans la majorité des cas, les gens font teshuva, les gens retournent vers Dieu, parce que, soit ils ont peur du guéhinnom, soit ils ont une épreuve et ils ont envie que ça s'arrange, d'accord? Ou soit ils aiment Dieu parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que c'est bien pour leur vie, que c'est bien pour eux, c'est bien pour leur famille, c'est bien pour leur santé, c'est bien pour leur entourage, c'est très très bien. Mais, c'est une teshuva, tata'a. C'est une teshuva de bas niveau. C'est une teshuva qui concerne la majorité des hommes. D'ailleurs, comme j'ai expliqué plusieurs fois, vous prenez par exemple même la tefila de Hazaku Baruch, même la tefila de Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. C'est une teshuva qui est une teshuva tata'a. C'est une teshuva de bas niveau, puisque finalement, quand je demande à quelqu'un pourquoi tu fais teshuva Rosh Hashanah, pourquoi tu fais teshuva Kippour, ben, c'est parce qu'il sait que c'est le jour du grand jugement, et il sait qu'on sait que si j'ai envie de passer une bonne année, donc, c'est la crainte. Il faut faire teshuva. D'accord? Donc, il y a un intérêt, mais c'est pas seulement un intérêt. C'est un intérêt qui est, je veux dire, qui est très matériel. C'est-à-dire qui est vraiment très matériel. Bon. Ça, c'est teshuva tata, teshuva de bas niveau. Teshuva, il a un. Et cette teshuva, elle a un effet limité. Parce que c'est une teshuva qui suit les règles du système. Donc le système est forcément limité. Parce qu'il y a des fois, quand t'as cassé la machine, on dit, bon, bah t'as cassé la machine, t'as cassé la machine. D'accord? Alors, c'est David, on fera une petite pause pour la dame croate. On fait le tanière maintenant. Avec ta permission. D'accord. Vas-y, bon, allez. Je te laisse faire. Alors,
on a besoin de la teshuva d'en bas pour accéder à la teshuva d'en
haut. Oui. C'est les Tunisiens. Quand un Tunisien dit j'ai pas compris.
C'est ça, je peux pas comprendre.
Elle avoue qu'il veut pas la
remettre
couper.
Remettre après.
J'ai pas compris. Ça veut dire maintenant je la coupe, c'est ça? Je lui ai dit le contraire, mais il a compris ça. Coupe, mange avec plaisir. Moi je m'en fiche.
Bah, attends, Lionel.
C'est spécial, ça n'importe
pas.
Alors, donc je suis en train de dire, mais attends, David, t'as des couteaux là-bas plus.
Écoute-toi.
Bon, d'accord. Donc, je vous laisse. Alors, en tout cas, d'accord, on a expliqué que c'est quoi la teshuvah, en un mot, c'est quoi la teshuvah ilaha? C'est une teshuvah qui n'est pas issue de l'amour ou de la crainte. D'accord? Teshuvah ilaha, vous écrivez teshuvah ilaha, voilà, tu vois, David il écrit, on lui l'écrit.
Il
prend les notes en anglais, c'est bien, Baruch HaShem. Alors, teshuvah ilaha, c'est une teshuvah qui est issue de la réflexion. Voilà. Très compliqué.
Elle arrive comment par rapport à un événement?
Eh ben, c'est pas du tout. Non. C'est une réflexion. Après, comme il dit, il dit que il y a un déclic. C'est-à-dire, je réfléchis. Et à un certain moment, t'as un nom en français, non? En français, t'as un nom? On t'appelle Dan, non, en hébreu, en français?
Ben oui.
D'accord, je crois qu'il y avait un autre nom. Avec un P, bon, je me... D'accord.
Bon,
bah, Baruch HaShem, alors c'est très bien, t'as le privilège, la chance d'avoir ton nom en hébreu, en français, le même. C'est Baruch HaShem. Alors, donc j'étais en train d'expliquer que c'est quoi la teshuvah ilaha. C'est quoi la teshuvah ilaha? La teshuvah ilaha, c'est une teshuvah qui est issue de la réflexion. Ça veut dire que la personne va réfléchir. Il va essayer de réfléchir, mais de manière complètement désintéressée.
Et comment il va?
D'accord? Il réfléchit. Il essaie de réfléchir à sa vie, à son entourage, à sa famille. Il réfléchit, et à ce moment, il y a un déclic. Alors, j'étais en train de dire, donc il comprend quoi? Il comprend qu'il est au pied du mur et que ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Bon. Et là, c'est une teshuvah ilaha. Alors, la semaine dernière, on a expliqué, et c'est sur ça qu'on s'est arrêté, on a expliqué que finalement, cette teshuvah, c'est ce qu'on appelle être amoureux de Dieu. C'est ce qu'on a expliqué cette semaine dernière. Une seconde.
De la réflexion.
Justement. C'est le grand amour. C'est un amour qui n'a rien à voir avec le pseudo-amour que les gens pensent avoir. Ça n'a rien à voir. C'est que, on a expliqué comme ça. D'accord? Et finalement, c'est comme ça que dans la religion, on voit le mariage. Comme ça, c'est un point qu'on n'a pas développé la semaine dernière. Dans la religion, on voit le mariage comme ça. Les gens vont se marier parce qu'ils s'aiment peut-être physiquement, ils sont attirés l'un par l'autre physiquement. Après, il y aura la réflexion. Et c'est après seulement qu'on aura le vrai amour. C'est-à-dire que le vrai amour ne peut être issu que de la réflexion.
On sait qu'on peut plus...
Mais d'accord? C'est-à-dire quand on a compris que c'est ça, c'est avec cette personne que je vais vivre et que ça y est, c'est ma vie. Tant que je n'ai pas cette compréhension, j'ai peut-être l'amour, mais c'est un amour qui n'a rien à voir avec le vrai amour qui est un amour qui est issu de la réflexion. Très très important à savoir. D'accord? Ça veut dire qu'à un certain moment dans le mariage, voilà, on commence, à un certain moment, c'est pas qu'il y a une coupure, c'est qu'on sent qu'il faut autre chose. C'est quoi autre chose? C'est juste de la réflexion. Et c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. On a expliqué la semaine dernière, on a dit que, vous vous rappelez la mère qui couvre les poussins?
Ouais.
Voilà, s'arrêter sur ça. C'est quoi la mère qui couvre les poussins? Quoi la mère qui couvre les poussins? D'abord, c'est quoi la mère? C'est quoi les poussins? La mère.
C'est Bina.
C'est Bina. C'est quoi Bina? C'est la réflexion. Les poussins, c'est quoi? Les poussins, c'est ce qui va être issu de la mère, c'est-à-dire les enfants de la mère. Ça veut dire tout le comportement qu'on va avoir. Tout notre comportement. Tous les sentiments, le comportement qui va suivre de Bina. Alors, on a expliqué la semaine dernière que qu'est-ce qui se passe quand une personne fait Teshuvah? Quand une personne fait Teshuvah, eh ben, son comportement ne va pas tout de suite changer. C'est-à-dire que les poussins, ils seront pas encore forcément en bonne santé. Et plus que ça, il y aura peut-être même des poussins pas cachers. Parce que avant, il y avait une autre mère. D'accord, avant, c'était une autre couveuse avant. Maintenant, tu veux tout changer. C'est une nouvelle couveuse, mais les enfants d'avant, qu'est-ce que tu fais avec les enfants d'avant? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que finalement, ce qu'on attend dans la Teshuvah Ilaha, c'est quoi? C'est uniquement que la source des pensées, la source des sentiments, la source de notre comportement change. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais on a dit aussi...
D'accord? Je répète, c'est très important ce qu'on est en train de dire, puisque c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Quand une personne fait teshuva, ce qu'on lui dit, c'est encore plus que ton comportement qu'on veut voir changer, ce qu'on a envie de voir changer, c'est encore plus que ça, c'est la source de ton comportement. C'est-à-dire ce que tu as dans la tête. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont avoir un comportement irréprochable. Qu'au niveau des poussins, vous avez les poussins parfaits. Mais la tête est tordue. Ils sont tordus dans la tête. C'est-à-dire que concrètement, vous venez, vous essayez de les bloquer, irréprochables. Ils ont un comportement irréprochable. Mais dans la tête, ils sont tordus, ils sont bloqués. D'accord?
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire très simple. Ça veut dire que c'est des gens qui ont réussi à maîtriser leur comportement pour s'assurer d'avoir un comportement irréprochable. Mais que la bina, ça veut dire ce qui génère les sentiments, est tordu. Et donc, je vais dire ce qui va se passer, c'est pas compliqué, c'est que devant les hommes, cette personne-là, il sera cachère, d'accord, la mère grise, Mais dès qu'il est chez lui à la maison, dès qu'il est donc entre quatre murs, comme on dit, hein, d'accord, qu'on est en hébreu, dès qu'il est entre quatre murs, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est très simple, d'accord? Parce que cette personne-là n'a pas la bina. Donc quand on a, quand à la source, c'est pas bon, et qu'on fait toujours pour les autres, c'est un peu le piège des hommes, c'est qu'on fait toujours pour les autres. Alors pour les autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres, ben du coup, quand il n'y a pas les autres, ou bien quand je pense qu'il n'y aura pas les autres, du coup, je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. D'accord? Bonsoir. Et ça, c'est bina. D'accord, ça c'est bina. C'est quoi bina?
Et le contraire, ça serait quoi? Excusez-moi. Le contraire, c'est quoi? Ça serait quoi le contraire?
Il est sans vélo aujourd'hui.
Le vélo, on l'a volé.
Ah, t'as volé. Bon,
capara. Le contraire, ça serait quoi alors?
Quand je l'ai volé?
C'est moi. Le mec, il a bina, mais il fait des bêtises.
Voilà. Donc, je répète. D'accord. Très très important ce qu'on explique aujourd'hui. On a bina, on a la mère, d'accord, et on a Ephrochim, c'est les enfants et les poussins, d'accord. Et donc on a AM revêtet à la Ephrochim, ça veut dire quoi? La mère qui couvre les messieurs, la mère qui couvre les poussins. Alors on a expliqué c'est quoi la mère, c'est quoi les enfants. Allez messieurs. La mère c'est quoi? C'est la réflexion. C'est-à-dire c'est ce qui va être source du comportement. Les enfants c'est quoi? Youssef, c'est quoi les enfants? Allez, la mère, les enfants. Je sais pas, je veux qu'ils disent, hein, ou pas? Alors la mère, les enfants. La mère c'est quoi? La mère c'est... D'accord, phrase de shalom. On est en train de plonger là, tu vas dedans.
La mère, c'est d'accord. Bien, hein. Les enfants, c'est des actions, des valeurs morales.
Tu sais à quoi on ressemble là, c'est comme, comme quand tu as très très froid, d'accord, et tu dois faire un plongeon pour tomber dans une piscine. Et que tu sais pas comment ça va se passer, mais tu plonges. C'est seulement une fois que tu es dedans que tu vas te débrouiller.
Non mais je réfléchis à ton exemple, en fait, de comme tu as dit tout à l'heure. Que le type qui fait tout devant les autres et qui fait
ah
tout.
Voilà
mais
très bien
lui c'est ce que j'ai que je réfléchissais j'essayais de trouver un exemple. Ça veut dire que ce mec il a pas fait teshuva?
Non, pas du tout. Ça peut être une personne qui a peut-être fait teshuva mais qu'aujourd'hui il vit pour les autres.
Ah, mais c'est pas
au niveau de la pratique.
Alors, je répète,
c'est pas l'adéquation.
Alors, non mais j'ai pas fini, j'ai expliqué. C'est une bonne question ce que tu poses, je vais expliquer tout de suite. Je répète, on a bina, d'accord, on a la mère, c'est bina, ça veut dire c'est ce qui va générer les sentiments. Et on a Ephrochim, c'est quoi Ephrochim? C'est les poussins. D'accord, donc la mère qui couvre les poussins dans l'histoire de Shilu Achaken. C'est quoi les poussins? Les poussins, c'est le comportement qui va être généré. Ça veut dire qu'on a ce qui génère le comportement et le comportement qui est issu. Ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. On peut avoir d'un côté des gens qui ont une tête tordue. Que dans la tête, la bina, c'est complètement tordue. Ça veut dire que quand tu lui demandes qu'est-ce que tu as vraiment envie, il a envie de faire des bêtises. Mais concrètement, ces poussins, c'est-à-dire le comportement, va être cachère. Pourquoi le comportement va être cachère? Parce que ça se fait pas, parce qu'il est dans un milieu où ça se fait pas, il a pas envie qu'on parle sur lui, donc immoral, etc.
C'est
très simple.
Parce que
si d'accord.
C'est immoral, justement, il a une grande force.
Non, pas, ça veut dire qu'il le fait pas parce que ça ne se fait pas. D'accord? Parce qu'il a été éduqué comme ça. Et donc, ce qu'on appelle, ce que le prophète Jérémie appelle, mitzvah tanashim melumada. Youssef, ça va expliquer, une seconde. Laissez-moi finir d'abord, Youssef. Messieurs, laissez-moi finir l'idée, après avec plaisir toutes les questions. Donc c'est ce que le prophète appelle mitzvah tanashi melumada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est qu'il fait ça par habitude, par routine. Ça veut dire que dans sa tête il est tordu, mais si tu demandes pourquoi tu mets tes tefillin le matin, il dit tu sais quoi, je sais même pas. Ou bien, il va dire je le fais pour les autres. Mais après t'as encore pire, celui qui dit tu sais quoi, je sais même pas pourquoi je les mets. Comme ça, c'est la routine. Ça c'est un vrai problème ça. Pourquoi? Parce qu'une personne comme ça, soit il vit pour les autres, soit il vit par routine, ça veut dire que la tête est tordue. D'accord, donc cette personne-là est très très loin de faire teshuva. Alors, c'est vrai que quand il arrivera en haut, s'il avait un comportement irréprochable, on lui posera pas de questions. Mais vous comprenez que c'est dommage de vivre sa vie pour les autres et finalement de pas se construire du tout. Ça veut dire que le gars, il a commencé sa vie, il a terminé sa vie, il a rien construit.
Comment tu sais, hein?
D'accord. Personne ne sait, tu vas voir. Ça, c'est... Après, on a le deuxième côté.
On les reconnaît.
D'accord, messieurs. C'est quoi le deuxième côté? Le deuxième côté, c'est celui qui a la mère, mais qui n'a pas les poussins. Donc le premier cas, c'est celui qui a les poussins, c'est-à-dire qui a un bon comportement. Mais qui n'a pas la mère, ça veut dire que dans la tête c'est tordu. C'est-à-dire que ce qui génère les sentiments c'est tordu. D'un autre côté, vous avez des gens qui, dans leurs actes, dans leurs actions, nous paraissent très très loin de Torah et Mitzvot. Des gens qu'on aurait appelés aujourd'hui des gens pas religieux.
Ah.
D'accord? Eh oui. Ou bien des gens qui disent qu'ils font teshuva, qui ont fait teshuva. Bon, concrètement, c'est pas ça quoi. D'accord? C'est pas ça du tout. Parce que c'est pas encore ça, parce que la famille n'est pas encore prête, parce qu'ils sont pas encore prêts, parce qu'ils sont en train d'apprendre, parce que ça prend du temps. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que ces gens-là, ils ont la tête qui est ok. C'est-à-dire que dans la tête, tout est clair. Dans la tête, ils savent exactement où ils vont. Et ils savent exactement qu'est-ce qu'il faut faire.
Au niveau matériel.
D'accord. Non, dans la tête. Ils savent où ils vont. C'est-à-dire, ils savent exactement où ils vont. Au niveau du comportement, bon, ça n'a pas pu encore se faire. Là, ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais dans la tête, c'est clair, c'est limpide. Sa tête est cachère. Il sait où il va. Ça, hein, c'est extraordinaire et c'est ce qu'on appelle...
Mais pas dans le comportement.
D'accord ? Pas encore.
Progressivement.
S'il sait qu'il va dans le mauvais chemin, il y va bien, il est bien.
Non, j'ai pas dit qu'il est bien. Mais j'ai dit que quand la tête est OK, tout est OK.
C'est bon ?
Bien sûr.
C'est mieux selon toi.
D'accord.
C'est la vérité qu'il a fait.
J'ai pas dit que... D'accord, tu as raison. C'est comme en médecine. D'accord. Lorsque tu as une personne, je préserve, la tête ne fonctionne plus. Même si tout le reste du corps fonctionne, qu'est-ce qui se passe avec son corps? C'est fini, il n'y a plus rien. Ça ne sert à plus rien son corps. Il ne faut plus rien faire avec son corps. C'est une catastrophe. Son corps, chacun il fait n'importe quoi. Mais d'un autre côté, quand Ras et Shalom, c'est le contraire, ça veut dire qu'une personne a des problèmes dans le reste du corps, mais que la tête est en parfait état, la tête fonctionne parfaitement. Même si le reste du corps n'est pas encore en bonne santé, ça finira par suivre. Il y a de l'espoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors, c'est ce qu'a expliqué ici l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken a expliqué que c'est quoi la bina, c'est quoi la mère qui couvre sur les enfants. Et que d'ailleurs, à un certain moment, on nous dit Shaler teshalach et ta'en vetabanim tikarlach. Qu'est-ce qu'on dit à un certain moment à cette personne? On lui dit maintenant il faut renvoyer la mère et prendre les enfants. Parce que c'est quoi le piège de ces gens-là? C'est que c'est des gens que finalement ils vont dire oui, moi tu sais, moi je suis juif dans la tête, je suis religieux dans la tête, je suis loubavitch voilà. Dans la tête, voilà. Moi je suis cachère. D'accord?
Ça va de soi finalement.
Ça va de soi, très bien, j'ai raison, ça va de soi. Mais c'est quoi le piège? C'est très simple. Le piège c'est qu'après avec le temps, on va avoir des gens qui vont être juifs idéologiquement. Ils vont dire écoute, moi le comportement, je suis pas encore prêt, mais petit à petit, bientôt ça viendra. Mais dans la tête, il est cachère. On dit bon.
C'est une justification
d'accord
en fait.
D'accord? Ah oui. C'est pas une justification. Parce qu'après, lui aussi, il se rentre dans la route, il dit bon, ma tête est cachère, au moins je suis pas comme ces religieux qui ont la tête tordue. Tu vois, en plus il justifie. Alors, c'est là que le verset vient, il te dit, d'accord, enfin, on pourrait expliquer comme ça. Le verset, il te dit, Shaleach teshalach et ta'em, ve'etabanim tikarlar. À un certain moment, il faut renvoyer la mère et prendre les enfants. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut arrêter un peu l'idéologie. Il faut commencer à passer à l'acte. Merci. Vous avez sorti de l'hôpital?
Pas en prévu.
Bon, le train reprend son cours.
Ouais, violemment.
Oh, Rachel.
Guérison.
Ça y est, bon, Rachel. Chaim. Donc, j'étais en train de dire. À un certain moment, qu'est-ce qu'on lui dit à cette Neshama? On lui dit, écoute, bon, maintenant, ça y est, l'idéologie, ça y est, d'accord? Maintenant, il faut passer à l'action. Alors, et c'est ça ce qu'on appelle être amoureux d'Akadosh Baruch Hu. On s'est arrêté sur ça la semaine dernière. Alors maintenant, je pense qu'on a repris, le marché. C'est quoi être amoureux d'Akadosh Baruch Hu? C'est être amoureux dans la tête. D'accord? Parce qu'on aime avec sa tête, on va haïr avec sa tête, d'accord? On va s'approcher avec sa tête, on va s'éloigner avec sa tête, tout se passe dans la tête. Et le corps n'est seulement l'expression de ce qui se passe dans la tête. Très important.
Oui.
D'accord? Ça veut dire que vous pouvez avoir des gens qui ont des gestes affectueux, mais que dans la tête, ils n'aiment pas. Mais peut-être ça se verra, peut-être ça se verra pas. Mais en vérité, on aime une personne dans la tête. On va haïr une personne dans la tête. Donc c'est ce qu'il te dit ici, l'Admor Hazaken. Il te dit, qu'est-ce qu'on appelle être amoureux d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi être amoureux d'Akadosh Baruch Hu? Être amoureux d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire essayer de faire que d'abord ma tête s'accroche à Dieu. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai envie de m'approcher de Dieu. Je me dis que mon but dans la vie, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu a envie. D'accord? Je dis pas que je le fais encore, mais ça c'est mon but. Ça c'est dans la pensée. D'accord? Après on a expliqué la semaine dernière, Bechol Nafshecha. C'est quoi Bechol Nafshecha? C'est-à-dire qu'après progressivement, je vais essayer de faire que mes pensées, mes paroles, mes actes, pas seulement à la synagogue, toute la journée, j'essaye de faire que Akadosh Baruch Hu soit fier de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas constamment, et c'est ça le grand chidouche, c'est que il y a des gens que constamment quand ils font Torah et Mitzvot, ils font ça pour se rendre quitte. D'accord? Oui. Ils font ça pour se rendre quitte.
Oui.
D'accord? C'est déjà pas mal. Ils font ça pour se rendre quitte. C'est-à-dire que dans la tête, ça lui prend la tête. Ça ne l'intéresse pas. Mais il fait ça pour se rendre quitte. Parce que bon, c'est comme ça, je le fais, parce que je sais pas ce qui peut m'arriver. Il fait ça pour se rendre quitte. C'est déjà pas mal. Dilat Morazaken.
C'est encore plus dur.
Mais justement. Dilat Morazaken, c'est pas ça ce qu'on appelle. Oui, le problème c'est que c'est très limité ça. Quand on rentre dans la routine, on tombe dans la routine après. Qu'est-ce que nous explique la chassidoute? Qu'est-ce que Dilat Morazaken? Il dit, c'est là qu'intervient la teshuvah ilaha. Qu'est-ce que te dit la teshuvah ilaha? La teshuvah te dit non. Tu dis il faut être amoureux de Dieu. Ça veut dire quoi être amoureux de Dieu? Ben, ça veut dire que je dois vibrer Dieu de toute mon essence. Vibrer. Ça veut dire que ma tête doit vouloir, doit être contente de faire Torah Mitzvot. Quand je me lève le matin, je dois être content d'être juste chemin Torah Mitzvot. Mes pensées, je dois essayer de les rendre le plus cachères possible. Mais ce n'est pas une guerre que je me bats parce que je ne suis pas content. Au contraire, je dois être content de le faire. Et c'est un travail sur soi.
D'accord ? Il faut avoir la motivation.
Pareil, ma parole. D'accord ? Que mes paroles sont des paroles de Torah Mitzvot. Mes actions sont des actions de Torah Mitzvot. Ça veut dire que c'est ma manière de voir les choses qui changent. Je ne suis pas en train de me rendre quitte, je suis en train d'être amoureux de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand quelqu'un il est amoureux de quelqu'un, il va acheter un bouquet de fleurs, il est en train de se rendre quitte, c'est un plaisir pour lui. Enfin, à moins que... D'accord ?
Quoi ? Ça
oui. Vous prenez ? Ça veut dire que voilà, quand on le fait pour se rendre quitte, c'est comme si que je vais acheter un bouquet de fleurs à quelqu'un pour me rendre quitte. Et comment je vais lui donner le meilleur de mes sourires ? On est à côté de la plaque. Parce que le bouquet de fleurs, c'est rien, c'est une forme. Ce qui compte, c'est le fond. C'est une expression, c'est exactement comme j'ai expliqué. C'est une expression. Quand le corps, c'est une expression, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête.
Oui, mais
je suis en train d'expliquer 2 secondes. Être amoureux, on est amoureux dans la tête. Donc, comment on va amener le bouquet de fleurs à Kadosh Baruch Hu ? Eh bien, justement, c'est quand je vais réaliser que quand je fais une mitzvah, quand j'ai une pensée de Torah, quand j'ai une parole de Torah, quand j'essaye d'avoir, pardon, une pensée, un comportement, une parole exemplaire, je le fais pour un Kadosh Baruch Hu. Je le fais par plaisir pour donner ça à Kadosh Baruch Hu avec grand plaisir. Je ne dis pas que je vais toujours réussir. Ça ne veut pas dire que parce que j'aime quelqu'un et que je lui amène un bouquet de fleurs, que je vais toujours lui faire plaisir. Mais au moins, quand je lui amène le bouquet de fleurs, au moins que je le fais avec le sourire, que je le fais pour lui faire plaisir. Ça, c'est Teshuvah Ila'a. Ça veut dire que je ne dis pas que mon comportement est cachère à 100%, mais au moins, ce que je le fais, je suis là à 100%. Je suis dedans à 100%. Et ça, c'est ce qu'on appelle Teshuvah Ila'a. Maintenant, imaginez-vous les tzadikim. La force des tzadikim, c'est que nous, on va arriver à avoir ça sur une mitzvah peut-être. Peut-être une fois par an, une fois par semaine, une fois par jour, je sais pas. D'accord ? Le tzadik, il arrive à faire ça sur toutes ses mitzvot. Ça veut dire que toute la mitzvot qu'il va faire, il va avoir l'impression qu'il a rien à amener un bouquet de fleurs à Kadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas des tzadikim. Mais au moins, s'exiger Teshuvah Ila'a, c'est-à-dire essayer de s'habituer qu'au moins une mitzvah, au moins un élément, je le fais par plaisir. Je donne un bouquet de fleurs à Kadosh Baruch Hu. Et bien, quand une personne arrive à ça, c'est là qu'on peut dire qu'il est amoureux d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, dès qu'on arrive à ça, il est amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar avait employé le terme « idapkut ». J'ai passé un peu plus de temps au début du cours, parce que c'est des notions qu'on a lues rapidement la semaine dernière dans les mots, qu'on n'a pas développées. C'est ce que le Zohar appelle dans les mots « idapkut ruha berucha ». C'est un esprit qui s'attache avec un autre esprit. Encore une fois, on aime dans sa tête. Et de la même manière, Akadosh Baruch Hu, les gens disent Akadosh Baruch Hu, en lo demut aguf, en oguf. Akadosh Baruch Hu n'a ni de corps, il n'a pas de forme de corps. Alors comment on peut s'attacher à Akadosh Baruch Hu ? C'est qu'en vérité, on peut aimer seulement le véritable amour et que dans l'esprit. Donc puisque le véritable amour est que dans l'esprit, ça on peut le faire avec Akadosh Baruch Hu. Voilà comment on est amoureux. Voilà comment on est amoureux d'Akadosh Baruch Hu.
Ma question c'est, comment on fait le lien entre le fait ?
Attends, excuse-moi, d'abord je crois que Youssef avait une question. Est-ce que j'ai revenu à ta question ?
C'est pas Youssef, c'est Youssef.
Youssef ?
C'est Youssef, c'est Youssef. Comment on fait le lien entre les premières parties ? C'est une question de réflexion. Je prends conscience qu'en dehors d'Hachem, il n'y a rien, etc. Je suis au pied du mur, je me rends compte que le reste, c'est du pipeau. Ça, c'est purement mental, donc ça s'appelle la Teshuvah Ila'a. Comment tu fais le lien avec ensuite le sentiment ? Parce qu'après lui, ça n'a pas l'air lié.
J'ai compris. Mais ce que la Chita de Morazaken, c'est pas seulement là, c'est depuis le début du Tania. C'est que quand une personne a une bonne réflexion, ça va forcément générer un sentiment. Je répète. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a bien compris quelque chose, ça va forcément que le comportement va suivre. C'est pour ça qu'on fait des cours de Torah à des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté de Torah Mitzvot. Parce qu'on part de la base que lorsqu'une personne a bien compris quelque chose, bah quelque part ça va changer quelque chose dans sa tête et qu'il finira par faire la Mitzvot.
D'accord, mais justement, le but que tu emploies lorsque tu fais ça, souvent c'est le rabbi qui dit ça, il faut faire une Mitzvot à la personne. Amel était fine, elle fait une mitzvah. Et cette mitzvah-là, ça va faire ça
provoque un sentiment.
Oui.
Mais tu ne travailles pas avec la tête.
Tu as raison. On commence pas avec la tête. Parce que si on attendait que la tête des gens se réveille, voilà. On ferait jamais teshuvah. Voilà. Tu as raison. Mais là, je parle, c'est quoi la teshuvah là ? La teshuvah là, c'est une fois que la personne maintenant est déjà dans le coup. Et que maintenant, il a envie que tout son corps vibre.
Donc forcément, la réflexion...
C'est pour ça que j'ai expliqué plusieurs fois. J'ai dit que teshuvah tata, teshuvah là. Teshuvah tata, ça peut être instantané. Parce que bon, instantanément, je décide de faire une mitzvah, de mettre les tefilines, par exemple. Si je vois, il a, c'est un travail d'une vie entière. C'est très très dur. C'est-à-dire, je dois sentir que ce que je fais, je vis. Je vis ce que je fais, je kiffe ce que je fais, je vibre ce que je fais. C'est tout mon corps qui vibre ce que je fais.
C'est pas possible d'avoir que la mère. Et que
alors, il a expliqué. Si
à partir du moment où tu penses que ce que tu fais pas aurait un sens, tu le fais.
Tu as raison, mais sauf que c'est quoi le piège, c'est qu'après il y a des gens qui se perdent dans l'idéologie, qui disent bon,
si t'as une contrainte,
ça veut dire qu'ils ont une réflexion, mais que la réflexion ne génère pas assez de revenus.
Voilà.
Tu comprends?
Il y en a qui ont des valeurs, mais
le
qui
sont non. Pas dans l'acte. La réflexion, non, il y en
a forcément, mais pas assez.
Tu as des valeurs.
Tu as raison.
C'est pas dans l'acte.
Après, il faut une volonté de renvoyer la mer.
Valeur, et donc c'est pas la bonne valeur. Non,
tu peux avoir d'accord. Du bon sens.
Je vais
pas être dans l'acte. Il y en a plein qui sont.
C'est quand on réfléchit, pourquoi la Torah nous compare ça à une mère et des enfants? Parce que c'est exactement comme dans l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait dans l'éducation?
Tout le monde
pas. Dans l'éducation, on forme ses enfants.
Donc, c'est pas la bonne pensée.
Donc on va former ses enfants, on va les former, on va essayer de leur donner une autonomie. D'accord? Mais pendant longtemps, pendant plusieurs années, ils n'ont pas d'autonomie. D'accord? Et à un certain moment, progressivement, on va essayer de les propulser. Mais tu as des enfants qui veulent pas quitter leur mère. Pourquoi ils veulent pas quitter? C'est parce qu'ils sont très bien, parce qu'ils ont pas envie de reprendre leur autonomie, ils sont très bien. Ils sont chez la mère. Donc à un certain moment, la Torah te dit, bon, c'est très bien que tu aies été éduqué, c'est très bien que... Qu'est-ce qu'ils font les parents finalement dans l'éducation? Ben, dans l'éducation, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont former la tête d'une personne. Et une fois qu'une personne a une tête qui est solide, après il peut aller toute la vie, il bougera pas. Alors que de l'autre côté, si la tête, s'il a une mauvaise éducation, Hachem Yishmor, c'est toute sa vie qui va être ratée. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit à un certain moment, une fois que tu as eu une tête, Baruch Hachem, qui est en bonne santé, chaler, c'est chaler, il faut renvoyer la mère. C'est-à-dire maintenant, il faut voler tes propres ailes. D'accord? C'est ce que ça veut dire. Alors maintenant, écoutez bien ce que je vais expliquer ici. L'Admor HaZaken veut nous montrer ici comment quand on dit qu'une personne vibre et va vivre à la Torah, c'est pas seulement dans sa pensée. C'est tout son corps et tous les aspects de sa vie qui vont participer, qui vont vibrer la Torah. Donc on a par exemple, c'est très simple, on a tout d'abord déjà la Torah. Donc lorsqu'une personne va étudier la Torah, c'est évident qu'il va vibrer la Torah. Bon. On a également la parole. Ben, il va dire un Dvar Torah. On a les pensées. C'est quoi les pensées? Ben, c'est pareil, c'est essayer d'avoir des pensées le plus possible cachères. D'accord. On a également l'action. C'est quoi l'action? L'action, c'est la tzedaka. Ça veut dire que le fait de donner la tzedaka de son argent, c'est pas seulement un devoir. D'accord? C'est plus que ça. Quand je donne la tzedaka, mon corps y vibre parce que je sens que je suis en train de faire ma mission. Je sens que je suis en train d'aimer Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je répète. Aimer à Kadosh Baruch Hu, c'est un peu comme un bouquet de fleurs. Ça veut dire que quand j'aime quelqu'un, après je peux l'aimer de plusieurs manières. Ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être même descendre les poubelles. Ça dépend. C'est faire quelque chose qui fait plaisir. D'accord? Et là, ce qu'il va expliquer ici, c'est que c'est la manière de l'Admor HaZaken de voir la tzedaka. C'est-à-dire la tzedaka, les gens ils voient la tzedaka comme un devoir, ou bien comme une ségoula, pour la parnassa, pour tout ce qu'on veut, le maaser, donne le maaser pour t'enrichir. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai tout ça. Mais après, à un certain moment, il faut aller plus loin. C'est-à-dire quoi aller plus loin? Ça veut dire qu'il faut comprendre que quand on a la tzedaka, hein, c'est par amour pour Akadosh Baruch Hu. C'est que je dis à Akadosh Baruch Hu, moi tu sais, tout ce que j'ai, ça t'appartient. Donc, si même avec mon argent, je peux te rendre service, comment je te rends service en donnant la tzedaka à un tel et un tel? Je le fais. Mais ça veut dire que c'est complètement une autre manière de voir les choses. Quand, je dis pas qu'on peut toujours donner, on donne quand on peut. Mais c'est une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire c'est pas un devoir, c'est pas une ségoula, c'est un plaisir de donner la tzedaka. C'est un bouquet de fleurs que j'amène à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que l'Admor HaZaken voit ici. D'accord? Il dit, de la même manière, on voit, hein, après on va rentrer dans les mots, parce que bon, là, j'ai fait longuement ce qu'on a pris la semaine dernière. Il dit, avec ça, on comprend que c'est ce que le prophète nous dit, que lorsqu'on donne la tzedaka, c'est écrit qu'on est les hachayot ruach shefalim. Que lorsqu'on donne la tzedaka, on va faire revivre, d'accord, l'esprit d'une personne qui est... Parce que lorsqu'on donne la tzedaka à quelqu'un, on va littéralement faire revivre quelqu'un. C'est peut-être une personne qui n'avait pas d'argent, qui n'était pas bien. Alors que vous avez l'argent, il va faire un sourire. C'est comme ça qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu l'as fait revivre, c'est ça ce qui me fait revivre à moi. C'est ça ce qui me fait revivre à moi. C'est comme ça que tu veux l'aimer, c'est comme ça que tu m'aimes. Tu veux m'aimer à moi, occupe-toi de mes enfants. Tu t'occupes de mes enfants, c'est comme ça que tu m'aimes. Et c'est comme ça que l'Admor HaZaken comprend le concept de Teshuvah Ila'a. Teshuvah Ila'a, ça veut dire l'amour. Donc comme on a expliqué, Teshuvah Ila'a, ça veut dire l'amour qui est issu de la réflexion. Mais c'est pas simplement issu de la réflexion, c'est que c'est un travail d'une vie entière. C'est la réflexion qui doit prendre chaque détail de notre vie. On doit analyser tous les détails de notre vie. Et progressivement, dans chaque détail, je réalise comment ça aussi je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Et avec le temps, ça rentre. C'est ça la chassidut. Ça prend du temps, mais ça rentre. Ça va rentrer dans la tête.
Est-ce que, question subsidiaire,
une question subsidiaire.
Je te rappelle quand on avait fait l'arbre des séphirotes,
Oui, oui.
On avait fait Rorschach Binadas, on avait dit que tout était dans Rorschach, mais c'était concentré. Et ensuite, ça allait se développer, d'accord, et ça allait ensuite s'agrandir, etc. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le sentiment, il est compris déjà dans Bina?
Certainement, mais surtout, bien sûr. Compris, mais il n'était pas développé.
De la même manière, une mère...
Bon, c'est une parenthèse, hein, allez.
Une mère qui aime ses enfants, elle aime ses enfants, mais l'enfant, il est sorti d'elle.
Oui, oui.
Donc, c'est pour ça aussi qu'elle a cet attachement, parce que c'est comme si elle était elle-même.
Mais à un certain moment, il faut une autonomie. À un certain moment, il faut commencer à vouloir voler de ses propres ailes.
Le plus dur, c'est le premier pas.
Est-ce que le fait de comprendre...
J'ai compris, je dis oui. Oui, clairement oui.
Effectivement, il a une clé dedans.
Bien sûr.
Mais il n'est pas,
pas développé.
Développé en tant que tel.
D'accord. Donc maintenant, on prend dans les mots. On va prendre à... Ou les fiches et pas gamme. Oui. Là, j'ai... Alors, on va prendre à... Bon, on referme la parenthèse. Excuse-moi, juste... Oui, voilà.
Vous comprenez ce que je dis ou...
Non.
Alors, on va prendre en haut de la page Tzadik Tet. Donc page 197. Messieurs. Si. Est-ce qu'on a bien compris ce que j'ai expliqué? D'accord. Donc voilà, donc en deux mots, ce qu'on a expliqué, c'est que être amoureux d'Akadosh Baruch Hu, vibrer à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une réflexion constante et que cette réflexion donne des enfants. C'est quoi une réflexion? C'est-à-dire analyser tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est pas un devoir envers Akadosh Baruch Hu, c'est un plaisir. Avec plaisir. Et là, vous comprenez, on comprend bien ce que le Baal Shem Tov veut dire, que Rachamana Liba Ba'e. Le Baal Shem Tov, il répétait souvent ça. Il dit, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est le cœur. Parce qu'une personne, comme a dit la Gemara, une personne qui te donne un grand cadeau, avec une grimace, et d'un autre côté, tu as un pauvre qui te donne un morceau de pain, mais avec un sourire.
Faut voir.
D'accord? Eh oui, mais attends, l'autre, qu'est-ce qu'il m'a dit, Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il dit qu'un bon repas m'est donné de manière, de manière avec une grimace, tu vas pas le digérer, tu vas le vomir. D'accord? Comme la Gemara raconte sur Rabbi Pinchas Ben Yair. Gemara raconte sur Rabbi Pinchas Ben Yair, qu'une fois, on dit que Rabbi Pinchas Ben Yair, il mangeait chez personne. Bon. Alors une fois, la Gemara raconte, une fois, il a rencontré Rabbi Yudan Nassi. Rabbi Yudan Nassi qui a composé la Mishnah. Et Rabbi Yudan Nassi, il invite Rabbi Pinchas Ben Yair. Il lui dit, est-ce que tu veux venir manger chez moi à la maison? Maintenant, Rabbi Yudan Nassi, il s'attendait à la réponse, il s'attendait à un non, parce qu'on savait que Rabbi Pinchas Ben Yair ne mangeait nulle part. Alors Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui répond, il lui dit, oui, je veux manger, viens manger, si tu n'avais pas de problème. Alors après, Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui dit, mais tu sais, tu me vois comme ça, tu crois que je dis toujours non aux gens, mais je vais t'expliquer pourquoi je dis non aux gens. Parce que les Chachamim nous ont appris qu'on n'a pas le droit de manger chez une personne, enfin on n'a pas le droit de s'inviter chez une personne, soit qui n'a pas à manger, c'est-à-dire qui n'a pas assez à manger, ou soit une personne qui a assez à manger mais qui n'a pas envie de lui donner de bon cœur. Et je me suis rendu compte que la majorité des gens, soit ils n'ont pas, soit ils ont mais ils veulent pas donner. C'est-à-dire ils te donnent mais la grimace, tu es là, tu finis ton plat comme ça, d'accord? Alors il dit, c'est pour ça que je vais chez personne, mais toi je te connais, toi tu vas au Chachem, t'es riche, ah oui, d'un massif très riche, et je sais que quand tu me donnes de bon cœur, c'est pour ça que je viens chez toi. Comme bon, après il y a une toute une suite dans l'histoire là-bas dans la Gemara. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qu'on veut expliquer ici. D'accord? Ce qu'on veut expliquer ici, c'est que c'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est de montrer à Kadosh Baruch que je te donne et j'ai envie de te donner. C'est ça. Ça, je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que je suis dégoûté, parce que je suis énervé. Non. Au contraire, c'est un plaisir. Avec le temps, progressivement, ça vient. Au début, demandez aux gens qui commencent à faire Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est une horreur.
Pour faire dormir.
C'est une horreur de faire Shabbat au début. C'est une horreur, c'est horrible. Ils pensent tout de suite, par exemple pour ceux qui fument, à la cigarette après Shabbat, d'accord? Ils pensent tout de suite à l'après-Shabbat, à la télé qui vont allumer quand Shabbat va sortir, à l'endroit où il va sortir samedi soir, etc., etc., etc. Mais après, avec le temps, d'accord? Mais après, avec le temps, on commence à prendre goût. Pourquoi? D'où ça vient, ça? C'est la réflexion. C'est qu'avec le temps, on fait plus Shabbat par contrainte, on fait Shabbat par amour. On est content que Shabbat est là. C'est un plaisir pour nous, c'est un kiff. C'est un moment qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, c'est un moment dans lequel on peut étudier la Torah, dans lequel on n'a rien qui nous prend la tête, tout va bien Baruch Hashem. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça c'est Shabbat. C'est la même chose. D'accord? Bon. Oulfi.
Moi je rappelle.
Alors messieurs, on y va, Oulfi.
Ça va venir encore quelques années.
Alors, peut-être on va reprendre en haut de la page. Vezoi idabkut rucha, juste avant. Vezoi idabkut rucha berucha betachlit advekut. Ça, c'est ce qu'on appelle être amoureux d'Akadosh Baruch Hu, que l'esprit s'est attaché à l'esprit. Puisque rappelez-vous, on n'aime que par sa tête. On n'aime pas avec son corps. Les gens pensent qu'on aime avec son corps. Le corps, c'est uniquement une expression de ce qui se passe dans la tête. Mais on aime avec sa tête.
Et le cœur, tu aimes.
D'accord. Le cœur aussi. Donc ça veut dire, ça veut dire que c'est pas forcément lié au physique.
Qu'avec le cœur.
D'accord.
Le cœur, c'est quoi? Le cœur serait le cœur de la tête.
Le cœur, c'est déjà plus une expression physique. Vezo idabkut rucha berucha betachlit adzvekut. Et ça, quand on est attaché à quelqu'un dans l'esprit, c'est tachlit adzvekut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a pas la page non plus, n'inquiète pas. Non, je vois David en regarder ta page.
Il est pas loin.
Non, mais moi, j'apprends en le regardant.
Donc, c'est gentil. Alors, betachlit adzvekut vayichut kishayi mechamat ahava. D'accord. Et ça, c'est... Donc ça, c'est idabkut, mais il est virolé. Alors, regarde. Tu t'amènes un bouquet de fleurs à quelqu'un, mais il pue. Non, ils sont mauvais, il est très beau, mais ils sont mauvais.
Ah, puis il aime bien châtier bien.
J'arrive bien, vas-y. Donc, on est... ça, c'est comme ça qu'on s'attache avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que l'esprit s'attache avec l'esprit. On aime avec l'esprit. Betachlit advekut. Et là, quand une personne, vous comprenez que ça, c'est nos limites.
C'est comment comme ça, j'ai pas compris.
D'accord. C'est quand une personne aime avec la réflexion.
Ah, tu l'as compris.
C'est-à-dire que chaque détail de sa vie, il essaie de réfléchir comment ça aussi, je le donne à Kadosh Baruch Hu. Et c'est un plaisir pour moi de le donner à Kadosh Baruch Hu.
J'ai envie de dormir.
D'accord. C'est un kiff pour moi. D'accord. Et quand on réfléchit comme ça, ça, c'est, écoutez bien les mots de Yadmor HaZaken. D'accord. Chaque mot est pesé ici. Tachlit advekut ve'ahichud. Tachlit, ça veut dire quoi, tachlit? Le summum. Advekut, ça veut dire de l'attachement, vaïchoud, d'accord? Vaïchoud, ça veut dire de...
L'union.
De l'union. C'est l'union la plus belle qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'attachement le plus beau qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et même avec une personne. C'est quand on est attaché à la personne dans notre tête. C'est plus beau. D'accord? Ça, c'est le plus beau. Voir des couples qui sont vieux, d'accord, etc. Que bon, ça y est, c'est fini, elle attire plus, c'est fini, ça y est, elle est vieux, d'accord? Mais, et pourtant, ils s'aiment de manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit. Leurs esprits correspondent, leurs esprits adhèrent, d'accord? Leurs esprits vont converger vers la même direction. Keshei mechamat ahava. D'accord? Peut-être. Keshei mechamat ahava.
Physiquement,
les personnes. Bah oui, ils ont plus de dents, ils sont courbés. Ah,
mais on voit beaucoup ça.
C'est le
chien et son
maître.
Pas
Fanny,
mais
Plim,
c'est la même
racine. On dit, qui s'aime, ça
sent,
mais qui s'aime,
se ressemble. Les gens qui ont des chiens, généralement,
c'est pas. Chez I, Mechamat, Ava, Vekoulé, etc. On a écouté bien ce qu'il y a de Mourazaket. Dit, maintenant qu'on a expliqué cette teshuva extraordinaire, la teshuva par amour, maintenant on va expliquer, donc la teshuva par amour, mais attention, la teshuva en vérité par réflexion, c'est un amour qui est généré par la personne. Extraordinaire. Est-ce qu'on a bien compris ce que j'ai expliqué? Si quelqu'un n'a pas compris, est-ce que tout le monde a compris? N'hésitez pas, si c'est pas clair, je rappelle. Messieurs, est-ce que je repasse encore une petite couche de 2 minutes? Ou c'est bon?
Dans la réflexion.
D'accord?
Dans la réflexion.
T'inquiète pas, tout le monde écoute. Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon? Ok. Alors maintenant, la Gemara Zaken nous dit, on va revenir à ce qu'on a expliqué dans le chapitre 4. D'accord? Pas grave, même s'il manque des 2-3 détails, on va les récupérer tout de suite. Écoutez bien ce que dit la Gemara Zaken. Ou les filles chez Pagam. Alors, on avait dit que dans le chapitre 4, on avait parlé de la Vera, de Otsaat Vera Levatala. D'accord? Otsaat, donc je traduis, Otsaat, faire sortir, Vera de la semence, Levatala en vain. D'accord? En vain, ça veut dire que c'était pas dans le cadre d'une procréation. D'accord? Ou c'était pas dans le cadre d'une union avec sa femme, d'une union qui est permise. Bon. Dans ce cas-là, ça s'appelle Otsaat Zera Levatala. C'est Levatala. C'est en vain. Alors, quand il y a Otsaat Zera Levatala, on avait expliqué dans le chapitre 4 qu'une avéra comme ça, c'est Hachem Ishmor, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun.
Pourtant, les médecins disent que c'est bon pour la santé.
D'accord? Hachem Ishmor, ceux qui disent ça. D'ailleurs, c'est important parce que j'ai lu récemment une lettre du Rabbi dans laquelle, à l'époque du Tzemar Tzedek, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 150 ans d'aujourd'hui, il y a une lettre du Tzemar Tzedek dans laquelle il écrit qu'il ne faut pas en parler de ça. Pourquoi il ne faut pas en parler? Il dit parce que le fait même d'en parler, ça peut générer des pensées tordues, etc. Et pourquoi c'est mieux de ne pas en parler, et quand on n'en parle pas, on en parle le moins possible. Mais j'ai lu une lettre du Rabbi, écoutez bien pourquoi j'en parle, parce que j'ai lu une lettre du Rabbi dans laquelle le Rabbi dit qu'aujourd'hui, il y avait déjà 30 ans, d'accord, 30, 35 ans, aujourd'hui, il y a carrément des docteurs qui non seulement ils osent en parler, mais en plus ils sont en train de dire que c'est bien pour la personne.
Oui.
Shemish mort, chas v'shalom. Alors que nous on sait ce que la Gemara dans le traité Mitael dit, des choses très très graves sur ça. C'est même pas le Zohar. D'accord. Chas v'shalom. Donc, non, il y a les docteurs, qui disent aujourd'hui que, enfin, bon, t'es tordu, hein. Alors, nous on sait, bon,
par rapport à leur référence,
nous on sait que ce que la Gemara a dit, la Gemara dans le traité Mitael dit, ce que le Zohar a dit, des mots très 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 graves sur ça. Que lorsqu'une personne fait ça, il est en train de tuer des vies spirituellement, voilà. Et que lorsqu'il va arriver en haut, ça va l'entourer, qu'il voudra atteindre le Gan Eden, on ne laissera pas atteindre le Gan Eden, il aura des vêtements sales, des choses, des descriptions horribles dans la Gemara et dans le Zohar. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, que malheureusement, les gens en parlent comme ça, comme si de rien n'était, et que surtout qu'il y a carrément des gens qui, au contraire, ils vont dire c'est bien, c'est une bonne chose, d'accord, chas v'shalom. Même des gens, même les tsaras, ils vont être capables de dire oui, c'est bien que tu fais ça parce que ça peut éviter d'autres choses. Oui. D'accord. Alors, chas v'shalom, c'est pour ça que c'est très important d'en parler. Et qu'il faut savoir que selon la Gemara, selon le Zohar, il n'y a pas de tikkun possible sur ça. C'est une avéra qui est tellement grave qu'à l'époque du Beit HaMikdash, on ne pouvait même pas amener de sacrifice sur ça. Une avéra qui est très très grave. La Gemara Nida dit des choses très très graves sur ça. D'accord. Il dit, v'en tsarich lomar.
Tu as fait une précision entre procréation et... Ou après un certain âge, il n'y a plus de procréation.
Très grave. Tant que c'est dans le cadre de la mitzvah de Ona, mm-hmm. D'accord, ça veut dire que c'est pour s'occuper de sa femme, il n'y a pas d'interdiction. Au contraire, c'est une mitzvah.
Est-ce que cette interdiction, enfin, est-ce que cette gravité...
Je vais dire en deux mots. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je vais dire en deux mots. Oui, je vais expliquer. Chaque fois qu'il y a de la semence, écoutez bien. Chaque fois qu'il y a de la semence qui sort du corps de l'homme, bon, je vais être un peu explicite, mais je suis obligé. D'accord. Chaque fois qu'il y a de la semence qui sort du corps de l'homme, il y a des malachim qui sont créés. Parce qu'on sait que dans chaque goutte, d'accord, dans chaque micro-goutte qui sort du corps de l'homme, d'ailleurs une micro-goutte suffit, d'accord, une micro-goutte de spermatozoïde suffit pour donner naissance à un enfant. D'accord, un seul spermatozoïde, ça veut dire qu'il faut rien du tout pour créer un enfant. Très bien. Il y en a qu'un seul qui est gardé. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est la source de vie. Alors, on explique, c'est expliqué dans le Zohar, que quand il y a de la semence qui sort de notre corps, donc c'est en vérité notre neshama qui est en train de créer, de générer des malachim. Des malachim, de l'énergie. On est en train de générer de l'énergie. Donc après, bon, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui vous disent que quand on part de ce monde, il y a un tunnel, on est entouré par des anges, je sais pas ce que c'est, en tout cas, ça c'est clair, le Zohar le dit, que chaque fois que ça sort, il y a des malachim qui sortent. Maintenant, il y a deux catégories de malachim. On a des anges, qui sont des anges cachers, qui au contraire vont nous défendre, et on a, Dieu préserve, des malachim chabala, des anges destructeurs, qui détruisent le monde, et qui nous détruiront à nous, et qui détruisent notre famille. D'accord? Quand je dis détruire notre famille, ça veut dire détruire, Dieu préserve nos enfants, détruire notre couple, détruire tout. Détruisent tout, ils nous entourent, ils nous lâchent pas. Il faut le savoir, c'est écrit. D'accord? Alors, si on le fait dans un cadre cachère, d'accord, de manière cachère, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans ce cas-là, on est entouré de bons malachim. Ça veut dire qu'en vérité, on a des milliards de vies autour de nous. Quand on réfléchit. Si on réfléchit chaque goutte de spermatozoïde qui est autour de nous, c'est-à-dire qu'on a des milliards de vies qui nous entourent. Mais ça dépend. Ça peut être des bonnes vies, c'est-à-dire des malachim au contraire qui vont nous aider à avancer. Et ça peut être de l'autre côté du préserve, des malachim qui vont nous faire freiner. Qui nous freinent à chaque fois. Et donc, c'est ça ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut même pas demander pardon à Kadosh Baruch Hu. La seule chose, la seule manière de demander pardon à Kadosh Baruch Hu et de réparer ça, c'est Teshuva Ilaha. C'est lorsque la personne a eu une réflexion et qu'il a compris, d'accord, mais pas seulement qu'il a peur ou qu'il dit c'est pas bien ou que j'ai peur, non, c'est plus que ça. C'est qu'il a compris que c'est pas bien. Et là, lorsqu'il comprend que c'est pas bien, en un coup, ça détruit tous ces malachim là. C'est comme dans l'histoire des nuages qu'on avait expliqué.
Il n'y a pas de Teshuva.
D'accord. Voilà. Là, Teshuva standard ne marche pas. Teshuva Tata ne marche pas, mais le Zohar dit que la Teshuva Ilaha, elle marche sur ça. Que Kadosh Baruch Hu, il attend une chose, c'est que la personne réalise que ce qu'il a fait c'était tordu et que c'est mauvais pour lui. C'est mauvais pour lui qu'il n'y a rien de bien dedans. Une fois que la personne a réalisé ça, il vient supprimer à l'instant même tous les anges destructeurs qu'il y avait autour de lui.
Mais ça, tu dis, c'est que quand c'est volontaire, ça.
Bien sûr.
Quand c'est involontaire, il y a quand même des anges qui sont créés.
Alors... C'est involontaire. Honnêtement, rien n'est... Excuse-moi, mais rien n'est involontaire, à mon avis.
Ah voilà, mais c'est ça que je voulais savoir.
D'accord, parce qu'un rêve de la nuit, enfin pour prendre cet exemple, hein, il va forcément être issu d'une idée que la personne a eue pendant la journée. D'accord. Donc, normalement. Après, on peut avoir le Tzarak, mais bon, c'est...
Le cas qu'on a dans la Torah avec les enfants de Yehuda.
Oui.
Mais là, c'est volontaire.
Ça vient de là.
Mais c'est volontaire.
Là, ils avaient une cabana particulière, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants. D'accord.
Ouais, c'est plus grave là-bas.
C'est un cas particulier.
Oui, non, mais c'est plus grave là-bas. C'est qu'ils avaient des relations sans vous penser, plus grave là-bas.
Bon, on ne parle pas de ça.
Non. D'accord ? Donc on continue. Alors les filles, donc maintenant on va expliquer comment c'est une teshuva. Comment on peut faire teshuva sur ça ? A priori, vous avez vu, quand celle qu'on a expliqué, c'est très grave. Impossible de faire teshuva sur ça. Vous avez le mot où les filles chez Pagan ?
C'est marrant, quand on parle de ce cas particulier.
De quoi ?
Il y a beaucoup d'avérotes.
Il y a pas d'autres avérotes que...
De quoi ?
Qu'on l'a mis sur le devant.
Qu'on l'a mis ça sur le devant.
Oui, mais dans la mesure où celle-là, tu peux pas la réparer.
Ça veut dire quoi ? J'ai pas compris la question.
À chaque fois, on insiste sur cette avéra-là, alors qu'il y a d'autres avéras, peut-être qu'il y en a qui sont plus graves.
C'est une avéra qui a un effet très grave, et c'est une avéra qui concerne...
Si pas, tu voleras pas, c'est pas dans les 10 commandements, voilà, si tu veux dire, par exemple.
Ouais, c'est ce que je veux dire, à un moment donné,
tu
es en train de me dire, tu commets l'adultère, c'est moins grave que ça.
Pas dit ça, non, au contraire.
Et puis, c'est commun.
Peut-être que tu fais tout,
d'accord. Parce que dans la tête des gens, qu'est-ce que disent les gens, ils te disent, les relations interdites, c'est très grave, mais ça, c'est pas grave. Entre Dieu et moi, ça concerne personne, c'est pas grave.
Ça,
d'accord. Alors non, mais justement.
Est-ce que ça veut dire le contraire ?
Pas du tout. Ce qu'il a expliqué ici. Ou les filles, chez Pagam, Babrit, tu vois, tout de suite, il va expliquer. Ou les filles, chez Pagam, Babrit, Botsa, Zara, Levatala, lorsqu'une personne Dieu préserve, écoutez bien les mots de Morazaken. On appelle ça Pagam, Abrit. Brit, on sait ce que c'est la Brit Mila. Et Pagam, ça veut dire qu'il a rendu défectueux sa Brit Mila. C'est-à-dire que la Brit, c'est l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'une personne fait une avéra comme ça, il est en train de faire un défaut à sa Brit Mila. C'est-à-dire qu'il est en train de faire un défaut à l'alliance qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. C'est très très grave.
Violation
de cette alliance-là. Ben Tsarich Lomar. Et il n'a pas besoin de dire, ça veut dire à plus forte raison. Barayot. D'accord ? Bien sûr. Quand il y a les relations interdites. Oshiar Isurebia, Doraito de Rabanan. Ou bien, les autres interdictions qui ont été interdites, soit par la Torah, soit par les Chachamim. Donc, ça peut être avec sa propre femme, parce qu'elle est Nida. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Quand on a des relations de préserve avec sa femme, lorsqu'elle est Nida, c'est la même chose. C'est ce qu'il te dit ici. Ça s'appelle Pgimat Abrit. Ça s'appelle toucher à l'alliance qu'il y a avec Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois, c'est des anges comme ça qui nous accompagnent et qui nous lâchent pas. C'est très très grave.
Encore.
D'accord ?
J'ai vu dans un commentaire
c'est encore pire.
Que ça, quand on avait des relations interdites ou avec des goyotes, ça, c'est dans un commentaire de Rachid avec Yosef, que le repousser, le prépuce repoussait un peu.
Ah, physiquement, peut-être, ouais. Je sais pas.
Non, mais regarde, c'est quand il voit ses frères et quand ils sont tout seuls. Tu verras, regarde, tiens.
D'accord. Bon.
Il a vu de la profondeur. Quoi donc ?
Non, pourquoi ?
Il a dit,
la raison.
Le Rabbi Shrik, il a fait un cours comme ça, il y a quelqu'un qui lui a dit, écoutez...
m'a étonné, c'est pour ça
que j'ai eu des rapports avec un non-juif, on m'a dit que c'était moins grave que d'avoir un rapport
une femme avec ou un homme ?
Une femme.
Ouais.
Et le rabbin il a dit, mais qui c'est qui m'a dit ça ? Ben le rabbin, il a dit, c'est pas le rabbin, c'est Rabbin des Bois qui vous a dit ça.
J'ai pas compris. Qu'est-ce que...
Ben, la personne allait dire, mais il a dit, mais c'est un garçon qui avait une relation avec une non-juive, etc. Il a dit, comme un verra, c'est moins grave que d'avoir une relation avec une juive.
Alachiquement, c'est moins grave.
C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, c'est
mais,
Rabbin
mais...
des Bois qui m'a dit ça.
Alors, si tu le dis ça dans un cours, imagine si tu le dis ça dans un cours.
Ce cas n'est pas
prévu dans la Torah.
Il n'y a pas de problème de Nida. Moins grave.
Ça, y a pas ça,
mais d'un autre côté, c'est plus grave. Pourquoi c'est plus grave ? Parce que ça veut dire que la personne a utilisé de sa semence, de sa force, de son énergie, de sa neshama, dans le corps d'une goya. C'est horrible. C'est-à-dire qu'il a donné de sa neshama, il a pris de sa neshama, il l'a mis dans une goya. Si c'est un corps chez une juive, même si on va dire qu'à l'arrêtement c'était grave, mais au moins ça reste dans la famille.
Oui.
Tu comprends ? Mais quand ça part chez une goya...
Non, ensuite la goya elle peut avoir des enfants.
Ouais, mais ouais.
Encore pire.
Alors ?
Encore pire.
Tu m'as dit.
Attendez.
C'est
pas. Je veux qu'on comprenne bien. C'est que même s'il n'y a pas. C'est qu'il y a toujours des enfants. C'est ça le ce que le Zohar nous dit.
Mais c'est quoi là ? Il faut pas les faire à nous, il faut les faire aux jeunes de 17 ans.
D'accord. Ça vous saurez quoi expliquer aux jeunes. Alors.
Non, parce que.
C'est un gros sujet.
Je fais Chaliar sur la mission. Moi, je peux
pas. C'est mon grand truc avec les capteurs. Donc quelque part quelque part est-ce que l'enfant qui réussit de cette union, est-ce que quelque part cet enfant il aurait une partie de l'âme juive de son père?
Encore une fois, je répète, il n'y a pas d'union sans enfant, ça n'existe pas. Même s'il n'y a pas d'enfant physique biologique, il y a toujours des enfants. Donc c'est pour ça que la question ne se pose même pas pour moi. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
De toutes les façons, il y a des enfants. Bon, alors, écoutez bien ce qu'il dit dans les mots maintenant.
Si le père donne une partie de son échava, c'est
encore plus grave. Spirituellement, c'est beaucoup plus
l'enfant,
grave.
L'enfant, il a quelque chose du père.
Oui, ça veut dire que l'enfant, il est constamment entre deux feux. Si tu lui veux, le pauvre. Ou le fils, c'est pas gamme. Donc, abri bota, dralvatala. Il faut parler aux enfants, tu as dit alors?
Ouais,
mais bon, c'est encore. Ah, ils sont petits encore, t'inquiète pas. Quand ils sont jeunes, il faut pas en parler. Ben, t'arrives l'homme, barayot, chari, sourébia, doraito, drabanan. Donc, comme j'ai dit, par exemple, avoir une relation avec sa femme qui est nida. D'accord? Mais ça peut être assourd, soit minatora, soit par les rachamim. Par exemple. D'accord? Par exemple. On sait que les rachamim, qu'est-ce que les rachamim ont interdit? Les rachamim ont interdit, par exemple, d'avoir des relations. Ils ont prolongé les jours que la Torah avait mis après les règles. D'accord? Nous, après les règles, on attend 7 jours. Alors, 7 jours, normalement, on n'est pas obligé d'attendre 7 jours. Enfin, je veux dire, minatora. Mais les rachamim ont rajouté. Mais qu'est-ce que tu dis ici? Écoutez bien. Si chamourim divrei sofrim, transgresser une avéra qui est midera banane, c'est plus grave que transgresser une avéra qui est minatora. Oh, d'accord? Alors, écoutez bien. Ça, on fera un autre cours sur ça.
Ah oui.
Pour expliquer que quand c'est une mitzvah qui est descendue par les rachamim, c'est encore plus grave. D'accord? Ou bien, un autre exemple, c'est onabenonide, par exemple. Ça veut dire que tous les 30 jours après, bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails. D'accord? Eh ben, quand c'est midera banane, c'est la même chose. Et lorsque Dieu préserve un homme, va avoir des relations avec sa femme dans ce moment-là. Pogem bemoar! Cette personne-là, il va toucher, à quoi il va toucher? Il va toucher à l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, mais dans quoi il va toucher? Bemoar, dans le cerveau. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. On aime dans le cerveau, on va haïr dans le cerveau, on s'approche dans le cerveau, et on s'éloigne dans le cerveau. Et lorsqu'une personne Dieu préserve, pourquoi on parle particulièrement de cette avéra pour répondre à la question de Yaakov? Parce que cette avéra touche le cerveau. Les autres avérotes ne touchent pas forcément le cerveau. Elles vont toucher le membre qui les a fait. Mais dans cette avéra, ce qu'il y a de particulier, c'est comme il y a de la semence qui va sortir du corps de l'homme, la semence, on considère que ça vient de ce qu'il y a de plus profond chez l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de plus profond chez l'homme? C'est le cerveau. Parce que dans le cerveau, tout est très concentré. Et dans la semence, tout est très concentré aussi. Selon le Zohar, la semence est issue directement du cerveau de la personne.
Mais même sur le plan
donc, deux secondes. Donc ça veut dire quoi? Bien sûr, même sur le plan biologique. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une personne, pourquoi on parle particulièrement de cette avéra? Puisque lorsqu'une personne va faire cette avéra, il va toucher à quoi? Il va toucher à la bina! D'accord? À la bina. Il va toucher...
Monsieur a des références.
C'est quoi?
À la bina, c'est une chanteuse.
Ah bon?
C'est un groupe.
Ouais,
enfin,
Ishtar.
Quelle référence.
D'accord, il va toucher ici au niveau de Bina. D'accord. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est de plus fort chez l'homme. Et quand après on a des blocages, on n'arrive pas à avancer dans Torah et Mitzvot, c'est ça. C'est exactement à cause de ça. C'est plus que tous les autres Averot. Dans tous les autres Averot, on crée des nuages. Mais là, c'est pas un nuage, on défonce la machine, là. D'accord? Je répète, très important ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 7? Chaque fois qu'une personne fait une avéra, il crée un nuage. Mais c'est externe, le nuage. D'accord? C'est externe, le nuage, finalement. Là, ce qu'il y a de particulier dans cette avéra, c'est que l'impact n'est pas externe. D'accord? Il va casser le système à l'intérieur. Le lien qui est avec Kadosh Baruch Hu, on va le casser de l'intérieur. On va toucher au moir, ce qui est de plus profond chez l'homme. C'est pour ça que la seule teshuva possible pour ça, c'est quoi? C'est de recréer le cerveau, la réflexion.
Donc,
d'accord.
Nouvelle réflexion. Nouvelle poule.
Bon, ouais. La reine, c'est pour ça. Tikuno ou des asek pour Rekta. Je vais refaire un afghan. Non, arrête là parce que ça commence à.
Pas du tout. La poule,
elle
coule, c'est pour ça que j'ai pensé à la poule.
Oui, on a compris. Alors, la chène, c'est pour ça, tikuno, ou de asek, boraita, de nafkat. C'est pour ça que c'est quoi son tikun à cette personne-là? Le tikun pour cette avéra, c'est quoi? C'est que cette personne-là, de asek, boraita, il doit être occupé. C'est quoi le asek? Aesek, batora. Aesek, c'est comme une affaire. C'est pas que j'étudie la Torah pour me rendre quitte, d'accord, ou pour savoir ce que je dois faire. C'est que je dois être engagé dans la Torah et que de la même manière que quand je fais une affaire, je kiffe, je suis dedans. Je vais gagner de l'argent. De la même manière. C'est quoi le tikkun pour cette avéra? Le tikkun pour cette avéra, c'est quand on va étudier la Torah de manière essec, de manière investie, que mon corps entier va vibrer la Torah. Sauf que quand je vais étudier la Torah, c'est ma tête qui va le faire. Qu'est-ce que l'avéra avait touché particulièrement quel membre? La tête. Donc tête contre tête, c'est bon.
Donc l'étude.
Demerorma nafkat. Et continue. Il dit, c'est pas seulement ça. C'est ou Shekatou, Betan, Adveliaou. Ça, on va comprendre ce qui est écrit dans Tan Adveliaou. Ça, NetVelio, dans Internet Velio, on a beaucoup de commentaires qui sont tirés principalement de Eliyahu Navi, de choses qu'on a appris de Eliyahu Navi. D'accord, c'est, mais je crois même que c'est traduit en français aujourd'hui. C'est écrit là-bas la chose suivante. Chapitre 5, c'est écrit. Adam Avar Avera. Si un homme a fait une Avera. Veni Krayev Mital Amakom. Et qu'à cause de cette Avera, il s'est rendu Khayav de la mort envers Dieu. Par exemple, pour quelle Avera on est Khayav Mita envers Dieu? Cette Avera. Cette Avera que je viens de vous dire. C'est écrit que sur l'Avera que je viens de dire ici, on est Khayav Mita Bideshamaim.
Oui.
C'est très grave. Et donc là-bas, le Tanet Veigaou, c'est bon, il n'a pas envie de le dire explicitement. Ouais, il dit une personne a fait une Avera pour laquelle il s'est rendu khayav de la mort envers Dieu. Il parle de ça.
C'est plus grave, d'accord, que la mort envers le tribunal, dans le tribunal.
Bien sûr.
Mais pourtant non. Parce qu'il veut faire ses choix. Alors que devant le tribunal, ils vont lui.
Mais non, au contraire, parce que c'est une capara. Là, il n'y a pas de capara.
Ils se sont coupés la tête de la capara.
D'accord. Mais non, c'est une capara quand même. Elle n'est pas de capara.
Vaut mieux faire tes choix, parce que capara...
Non, parce que capara, elle est faite. Je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivé.
Alors, Maya CV. Écoutez bien ce qu'il dit Nanet Veliaou. Donc, une personne qui a fait une avéra, ça dépend. Il y a des choses qu'on peut avoir la capara en bas, il y a des choses qu'on peut avoir la capara en haut.
Celui qui fait un adultère, il a un bed-in. Il est condamné au bed-in.
Ah, c'est pas compliqué, ça. Il faut l'attraper et tout.
Non, mais admettons, on l'attrape.
Il a le temps, il faut l'attraper.
Non, mais on l'attrape bed-in.
Quoi?
Bed-in.
Oui.
Un esprit rationnel, ça paraît plus grave ça que ça, quand même.
Tu as raison. Mais finalement, quelque part, c'est. Alors, étant donné qu'il a trop abusé, donc dans ce cas-là, on dit bon, dans ce cas-là, on arrête tout de suite les dégâts.
Ouais.
Alors que lorsque c'est une avéra comme ça, on dit bon, très grave ce que tu as fait, on ne sait pas comment tu vas t'en sortir, mais tu peux t'en sortir. Alors que celui que Dieu préserve, qui a fait l'adultère, qui l'a été attrapé, qu'on a prévenu trois fois, etc., d'accord, là, on le met à mort parce qu'on dit on arrête ici les dégâts. Ah oui. Ou chez Katou Vetanat Velia ou en plus son prénom trois fois pour cette femme.
Ah d'accord.
Vaut mieux qu'il divorce.
Non.
Ouais. Non, trois fois pour cette femme.
Non, vaut mieux que elle divorce. Non, je ne veux pas divorcer.
Ah oui, c'est.
Il a pris une femme mariée. Ou chez Katou Vetanat Velia ou ça c'est. Sur ça dans la Torah on ne pardonne pas. Il y a d'autres avérotes sur lesquelles on pardonne, mais ça dans la Torah on ne pardonne pas.
Non mais lui ce qu'il dit, c'est que c'est plus grave. Ce qu'on est en train de parler, les émissions.
Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. J'ai dit que sur cette avéra là, il n'y a pas de tikkun en bas. Le tikkun, il y en a, mais il est très difficile. Ça veut dire comme ça. Des fois, une personne va faire une gaffe, d'accord ? Une personne va faire une bêtise, on dit, bon, écoute, tu vas avoir du mal à t'en sortir, mais si tu veux, tu peux t'en sortir. C'est le cas de cet avéra. Mais quand une personne a fait l'adultère, etc., et qu'il a été prévenu, il a abusé, le bonhomme. Il a vraiment abusé, là. Non, là, on dit, bon, on arrête les dégâts ici, et ça y est.
Ça a l'air plus grave.
D'accord ? Bien sûr.
Mais pour moi, quand tu fais de l'adultère, t'as...
Moi, je... quand la personne fait de l'adultère, ouais.
Non,
laissez-le tranquille. Il est pur.
C'est pareil, parce que tu l'as pas fait avec le but d'avoir un enfant aussi, c'est la même chose. Donc t'auras émis inutilement, donc tu dois avoir la même chose.
Oui, sauf que là, il y avait un partenaire en face.
Ouais, et alors?
Alors, quand c'est un partenaire en face, c'est pas la même chose. L'impact des malachim est beaucoup plus grave. Parce que quand on est à deux à le faire et quand on est à seul, c'est pas la même chose.
Oui, donc tu devrais aussi récolter une condamnation d'en haut.
Tu as raison. Sauf que si effectivement il n'a pas été attrapé par le Beddin, il a une condamnation d'en haut. Effectivement, tu as raison. C'est encore plus grave. Donc Vezeu, Shekatou, Vezenet Veilia, ou je reprends dans les mots, ça ce qui crée Internet de Veilia ou Adam, Avar, Avera. Un homme a transgressé une avéra. Venez Khayav Vital Makom. Et il s'est rendu Khayav à cause de ça, de la mort envers Dieu. Maya Sevehye. Qu'est-ce qu'il va faire s'il veut vivre? Je veux vivre. I Maya Ragi Likrod Dafehad. Likra Bet Dabim. S'il avait l'habitude d'étudier une page, d'assister à un cours de Torah.
Deux.
Il viendra à deux cours de Torah.
Deux fois plus.
Les Shanot Derek Echad. S'il avait l'habitude d'enseigner un chapitre de Mishnah. Yishne Bet Prakim. Comment ça se fait? Quel rapport? D'accord. En quoi ça? Là maintenant on comprend. On comprend pas. On a l'impression que Zerma il a fait la vera, il dit bon maintenant je paye, voilà, c'est bon, deux cours, je viens. Mais quoi, le cours ça appartient à la vera. Qu'est-ce qu'il sort? Non, comprenant. Quand on te dit d'étudier plus, c'est pas qu'il va étudier plus, c'est que ça y est, c'est le tikkun, il a payé. Il dit voilà, j'ai fauté mais j'ai payé. Il croit qu'il a payé, tu vois. J'ai fauté mais j'ai payé. Non, c'est pas ça. C'est qu'on lui dit ton seul tikkun possible, c'est dans la réflexion. Donc, certainement que l'étude que tu as habituellement ne te suffira pas. Tu dois mettre double dose, d'accord, et peut-être triple dose, d'accord, tu dois étudier beaucoup plus. D'accord ? Tu dois investir beaucoup plus pour essayer de comprendre. Et c'est seulement lorsque tu auras compris dans ta réflexion que c'est pas bien ce que tu as fait, et qu'au contraire, maintenant tu as envie de faire le contraire et que c'est parce que c'est pour ton bien, c'est là que Kadosh Baruch Hu, il pourra dire, ça y est, je l'ai pardonné sur ça. Ouais. Ça y est, il peut vivre. Ouais, non, parce que rappelez-vous, ce qu'on a appris dans la Gemara, Brachot, pardon, dimanche, on a appris que finalement, dans le judaïsme, la vraie vie, d'accord, la vraie vie, c'est pas la vie matérielle et c'est pas la mort et c'est pas la vie spirituelle, c'est pas la vie matérielle et la mort spirituelle. C'est pas de ça qu'on parle. La vraie vie, c'est la vie spirituelle. Ça veut dire qu'une personne du présent qui fait une avéra comme ça, il devient mort. C'est-à-dire qu'il meurt, il vit plus.
C'est comme si dormait.
D'accord. Il meurt du présent. Ça veut dire qu'après on n'arrive plus à. Ça c'est écrit, sachez-le. C'est écrit que ça nous empêche de faire une bonne fila, d'accord. Ça nous empêche, etc., etc. À tel point qu'à un certain moment, on a ce qu'on appelle Tfilat Ezra, la Tvila de Ezra. Ezra, il a instauré à un certain moment que même ceux qui ont eu des relations dans un cadre cachère avec leur femme, étant donné que quand même, il y a eu des... D'accord, étant donné qu'ils devaient aller au mikvé le matin pour faire la Tfila. C'est pour ça. Parce qu'ils considèrent que quand même, on a du mal à faire la Tfila, comme ça. Même si c'est cachère, des fois, on peut avoir des choses qui... on peut avoir des choses dans lesquelles il y avait un manque de pureté. Et il a instauré ça.
Un rapport sexuel,
sauf que cachère.
Rapport sexuel cachère.
Même un rapport.
Tu allais faire un hiver, on a fait la différence.
Voilà. Mais après les chachamim, oui. Mais après les chachamim ont supprimé ça, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est trop difficile pour les gens ne tenaient pas. Alors c'est-à-dire que les gens ne tenaient pas, ben deux options possibles.
Surtout l'hiver.
D'accord. Soit ça veut dire qu'ils n'avaient pas de relation, parce que c'est pas le mikvé tous les jours, d'accord. Ou soit ça veut dire que, d'accord. Ça veut dire que qu'ils n'écoutaient pas. Donc c'est une gzera, on appelait ça une gzera chen la tibour yucholé la mode bas. Une gzera que le tibour ne pouvait pas tenir, que le public local ne pouvait pas tenir, donc ça a été supprimé par les chachamim. Mais bon, quoi qu'il en soit, on comprend d'ici que c'est très 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 important. Que lorsqu'une personne a de la semence qui sort de son corps, c'est son essence qu'il est en train de donner. Donc c'est très important. C'est pas une simple avéra. D'accord, c'est pas un simple fait. Et c'est pour ça que même lorsqu'une personne a une relation avec sa femme de manière cachère, on lui demande d'avoir des pensées le plus cachère possible. Parce qu'il est en train d'avoir une union de son niveau le plus fort de sa neshama. Et donc, faut pas passer à côté. On continue dans les mots. Vaïnu, kemachal, chevel, anifsak, vechoser, vekoshro. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? S'il avait l'habitude d'étudier une page, il va étudier combien? Deux pages. Très bien. Ça veut dire que c'est la réflexion qui peut gérer tout ça. C'est comme une corde, anifsak, une corde qui s'est coupée. Véchoser avec Ochro. Imaginez-vous une corde qui s'est coupée et vous allez la rattacher. Donc vous allez prendre les deux fils et vous allez les rattacher. Qu'est-ce qui va se passer? Sur la majorité de la corde, vous aurez un fil qui fait la longueur d'un fil. Mais à l'endroit de la coupure, vous aurez un fil qui fait quelle épaisseur?
Un nœud.
Du nœud. Donc combien de fils il fera ici? Combien de fils il y aura? Deux, même trois même.
Il y en a des d'accord. Fois, c'est qu'un nœud, la corde. Il n'y a plus de corde.
Corde à nœud. Un sac de nœud. Oui. Alors, donc il fait un nœud. Qu'est-ce qu'on voit? C'est la même chose. C'est quoi le rôle de la réflexion ici? Si on te dit, bon, tu as coupé, alors on va faire un nœud maintenant. Quand on va faire un nœud, c'est-à-dire quoi? Bah, t'avais l'habitude d'étudier un cours, tu vas faire deux cours, trois cours, quatre cours, on va faire un nœud. Et forcément, le nœud, il sera plus épais que d'habitude. Bah, pourquoi? Parce qu'on est en train de réparer ce qu'on a cassé. C'est pour ça, c'est ce que dit Tanet Veliaou. Il a fauté.
La corde sera toujours avec des nœuds, quoi. La corde ne sera jamais lisse, elle perd sa qualité de
nœud. C'est
déjà pas mal d'avoir une corde qui tient, c'est déjà extraordinaire. C'est comme il a une voiture qui est réparée, il dit oui mais elle est réparée, elle est pas neuve. Bon, elle roule au moins. Tant qu'elle roule, ça va.
C'est pas pareil.
D'accord. Même si c'est des trucs qui ont été rafistolés, mais au moins elle roule.
C'est sous le capot, tu vois pas.
Alors, il continue maintenant, il dit l'admorazaken, et je finis avec ça. Il dit que, donc, alors.
C'est l'heure,
on y va. Vézé ou Shamarakatou, avec ça on va comprendre ce que le Pasouk a dit. Bechesed ve'emet Yehupar Avon. D'accord? Que avec le chesed de Dieu et la vérité, avec le chesed et la vérité, seront pardonnés les fautes. Bon alors le chesed, je comprends. Qu'avec le chesed de Dieu.
La misote.
D'accord? Bon, non, à la limite, je comprends qu'avec la bonté de Dieu, il ne pardonnera nos fautes. Bon, ça j'accepte. Mais ça veut dire quoi que, avec le émet, on sera pardonné? C'est-à-dire que, quel rapport avec la vérité?
Émet,
écoutez bien.
Mais
en quoi la vérité me pardonne?
Mais la suite.
D'accord?
Je lis pas la suite, je dis.
Mais enfin, c'est évident.
Alors,
sert à rien de dire aussi.
En quoi la vérité, messieurs, en quoi la vérité va me pardonner? Quel rapport? Très bien. En emet et la Torah vechoulé. D'accord? Donc c'est la Gemara dans Yerushalmi, dans Rosh Hashanah, qui dit que la seule vérité qu'on connaît, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que par définition, c'est quoi une vérité? C'est quelque chose qui est immuable, qui ne change pas. La seule chose qu'on connaît qui ne change pas, c'est la Torah. Tout le reste, ça change. Notre monde change. D'accord? Les règles de notre monde changent. La nature change. Tout change. Il y a une seule chose qui ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle, c'est dans notre religion, pas comme d'autres religions, on n'adapte pas. On ne réadapte pas. D'accord? Comment ils appellent ça chez les autres quand ils ont réadapté leur... Il y a un nom. Comme ils ont fait une réforme. Enfin, il y avait un nom.
C'est une réforme.
Parce qu'ils ont adapté. Donc ça, c'est la preuve que c'est pas une vérité. C'est pas une vérité. Ça veut dire que c'était une vérité à l'époque.
Mise à jour.
D'accord? On a mis à jour. Voilà, c'est... À l'époque, c'était bon. Maintenant, c'est fini. Il faut changer. Il faut adapter. Le monde a changé.
Qui a fait les mises à jour?
T'auras fait aucune mise à jour.
Si, quand il y a des problèmes de société, etc.
La Torah met des antivirus.
Voilà, mise à jour. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Par exemple, à l'époque, attendez, le feu pour Shabbat, etc. Mais là, les rabbis m'ont dit, bon, mais l'électricité, ça se compte par au feu.
Non, mais c'est tout. Non, c'est vérifié. Contraire.
Non, mais bon, mise à jour, c'est pas bon.
C'est l'application qui change.
Non, mais la base ne change pas. Donc, Ben, Emmet, messieurs, écoutez bien. D'accord?
La preuve, c'est que l'implique au départ, le feu est sur un tapis.
Alors,
le feu sur un seul.
Ve'en emet, d'accord? Ve'en emet et la Torah. La seule vérité absolue, immuable qu'on connaît, c'est quoi? C'est la Torah. Torah emet, Nathan Lanou. La seule vérité qu'on connaît, c'est la Torah. Alors quel rapport? Quel rapport? On nous dit ici, Dieu nous pardonnera. Comment les fautes seront pardonnées? Par le chesed et par la vérité. Comment la vérité pardonne les fautes? Maintenant on comprend. C'est que la vérité ici, c'est le nom de code de la Torah. Et que la Torah pardonne les fautes. Comment la Torah pardonne les fautes? C'est pas parce que je vais étudier un Dvar Torah que ça pardonne les fautes. Non. C'est la réflexion qui est issue par la Torah. Quand une personne va réfléchir et va prendre conscience, quand une personne a compris, quand la mère est en bonne santé, c'est fini, c'est tout qui va suivre. C'est ce qu'on aura à te dire ici. Que bon, maintenant ce qui a été fait. D'accord? Mais une fois que la personne a réussi à avoir la mère, d'accord? La Bina, qui est en bonne santé, qui est reparti, dans ce cas-là, Yehu Paravon, on peut tout pardonner. Ça, c'est la Torah. Ve'avon, bet Eili. Non, on sait que... Maintenant, il amène une autre question. Il dit que... Avon, bet Eili. Donc, ça, c'est dans Shmuel. Dans Shmuel, on nous raconte, dans la Bible, dans le livre de Shmuel, on nous raconte la faute des enfants de Haïli. D'accord? Haïli avec un Aïn, pas avec un Aleph. Et c'était une faute qui était liée principalement à l'adultère. D'accord? Aux relations interdites, au moins. Et là-bas, c'est écrit que Dieu, il dit qu'aucun sacrifice ne pourra pardonner. D'accord? Alors, a priori, on aurait pu comprendre qu'aucun sacrifice ne pourra pardonner. Ça veut dire que c'est impardonnable. Donc, c'est contre ce qu'on a expliqué ici. Et là, Mourazakan, regardez ce qu'il va dire. Non! Au contraire! Non seulement que ce verset là-bas ne me dérange pas, le verset qui a dit que le sacrifice ne pardonnera pas. Au contraire! Ce verset va conforter ma thèse. Parce que, qu'est-ce qu'a dit le verset là-bas? Le verset a dit, le sacrifice ne pardonnera pas. Ça veut dire que les moyens conventionnels, eux, ne peuvent pas pardonner. Qui c'est qui peut pardonner? En revanche, qui c'est qui peut pardonner? C'est l'étude de la Torah. Comme il dit dans les mots. D'accord? Alors, Ve'avon Beit Eli. La faute qu'ils avaient fait Beit Eli, donc la maison de Eli, ça veut dire qu'ils avaient fait donc la faute de l'adultère. Hein, que là-bas, c'est écrit que Bezeva Humintra. Donc là-bas, il avait dit que Dieu leur avait dit, vous ne serez pas pardonné par un sacrifice et par une offrande. C'est Bezeva Humintra, ou dit Anomit Kaper. C'est seulement avec un sacrifice, ça veut dire avec un moyen conventionnel. Et effectivement, pour les pertes, etc., et pour toute sa vérote-là, dans laquelle Dieu préserve Akadosh Baruch Hu, dit qu'on est impardonnable. Ça veut dire que c'est impardonnable par les méthodes conventionnelles. Aval, mais, mit kaper betora ugmilu trasadim. Mais on peut pardonner ça, et ça on va développer dans la suite, par la Torah. La Torah c'est la réflexion. Et par Gmilut Hasadim. C'est quoi Gmilut Hasadim? Alors, ça il va expliquer dans la suite. Ça c'est extraordinaire. D'accord? Alors, c'est quoi Gmilut Hasadim? D'accord? Gmilut Hasadim, c'est des bonnes actions, c'est la tzedaka. Mais la tzedaka donnée de manière sincère. Parce que, quelque part.
Avec le cœur.
Écoutez bien. le fait de donner de la tzedaka, d'accord, oui, mais le fait de donner de la tzedaka et de montrer, d'accord, eh oui, ça rate pas. Le fait de donner de la tzedaka de manière que la personne a compris que son argent ne lui appartient pas. Écoutez bien, que son argent ne lui
appartient pas.
Attendez, laissez-moi finir. Le fait de donner de la tzedaka d'une manière qu'on comprend que mon argent ne m'appartient pas, d'accord, mais que mon argent appartient à Kadosh Baruch Hu et la preuve, je le donne. Ça, on va développer dans la suite. Bah finalement, ça prouve à Kadosh Baruch Hu que j'ai compris qu'il y a eu une réflexion ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une réflexion, j'ai compris que c'est pas mon argent. Parce que c'est très dur de donner de l'argent. Pourquoi tu lui donnes de l'argent? Alors, on parle pas seulement de maaser. Ni l'autre à sa vie, mais c'est pas maaser.
J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est plus dur.
Non, mais attendez, je répète. On parle pas de maaser, là. Les gens, ils pensent maaser. Maaser, vous savez, maaser, c'est entre 10 et 20%, c'est-à-dire c'est 15%. C'est-à-dire, là, on est après les 15%. C'est là que commence Gmilut Hassadim.
C'est la cas.
D'accord. Eh oui. Mais c'est Gmilut. Mais c'est quoi la différence entre Zaka et Gmilut Hassadim? Ce qu'on va expliquer après, c'est que c'est Zaka, c'est la charité. Gmilut Hassadim, c'est quand lorsque mon corps va vibrer la mitzvah, que je suis content de le faire. Et quelque part, ce qu'il va expliquer ici, c'est justement, c'est que le tikkun d'une avera comme ça, c'est pas seulement dans l'étude de la Torah, c'est aussi quand on va vibrer une mitzvah. D'accord.
Cerveau,
alors, deux secondes. Tu as raison. C'est ça qu'on touche principalement à la Torah. Mais en quoi ça touche le cerveau? Parce que je peux te dire que lorsqu'une personne met la main au portefeuille, son cerveau, il réfléchit.
Non, ça, c'est encore.
D'accord. Ah non.
Ça peut lui faire mal.
Tout, il réfléchit. Lorsqu'une personne prend son chéquier, d'accord, et qui va remplir, et qui va se dire, je le fais parce que j'aime Dieu, et je le donne pour Dieu, je lui donne ce qui lui appartient, je peux te dire que le bonhomme, il a réfléchi.
C'est encore plus fort.
D'accord.
Et
je vais te dire plus que ça. À mon avis, c'est même encore plus fort que l'étude de la Torah. C'est même encore plus fort que l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, ça ne m'engage pas forcément. D'accord. Je te donne des arguments, là.
Tu connais ça,
plus largement.
Hein?
Quand il n'est pas matérialisé, l'argent, c'est encore plus facile.
C'est
quoi plus de vérité? Avec l'argent matériel, physique?
En espèce.
Espèce, ou bien de faire une carte bleue ou payer un chèque?
Parce que ça fait partie de la thérapie de payer.
Moi, je sais pas, quand je fais un chèque, je n'ai pas le sentiment que j'ai des espèces.
Exactement, tu payes réellement.
C'est un avis, c'est comme ça.
Quand c'est un chèque, seulement quand tu vois le relevé de compte, tu dis, ah, j'ai donné ça.
Mais donc, qu'est-ce qui est le meilleur du basket avec de l'espèce?
C'est comme Amadine chez Freud. Chez Freud, dans la thérapie, de la psychologie, dans la thérapie, c'est important que le payant, le patient, il paye.
Ouais.
Il paye cher.
Il paye cher, oui, c'est vrai.
C'est important, c'est pris. C'est pas.
C'est d'ailleurs pour
ouais.
Le problème, c'est que les dentistes se prennent pour des psychanalystes quand ils payent cher.
Voilà. Donc on s'arrête ici. Donc Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera le chapitre 10. D'accord.
Bravo Youssef. Hein.
Bravo. Youssef. Alors.
Si vous
voulez, j'avais
pas ça.
Bon.
D'accord.
Alors Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera un résumé au début du cours. Parce que là, le chapitre 9, on finit quand même une première section du Igaret Teshuva. C'est bon. Alors, dans le chapitre 9, on vient de finir maintenant une première partie du Igaret Teshuva, et vous avez vu qu'on a fait quand même un sacré tour de force sur la Teshuva, qu'on explique qu'est-ce que c'est la Teshuva, comment on fait la Teshuva, et les Juifs, et les non-Juifs, et la Teshuva d'en bas, la Teshuva d'en haut, on a eu beaucoup de détails. Le point du cours d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, il y a certaines choses que c'est uniquement la Teshuva par la réflexion qui peut pardonner, comme les Averot liées autour de, autour de Bgam Abri, de Teshuva Abri Tmila. Donc Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le début du cours, dans la première demi-heure, c'est pour ça que j'insiste pour qu'on vienne à l'heure. On fera, si Dieu veut, un résumé oral, d'accord, pas encore sur papier, ce sera après. On fera un résumé oral de différentes catégories de Averot qu'on a citées jusqu'à maintenant, et de différentes Teshuva qui existaient, d'accord. Donc Teshuva Tata'a, la Teshuva d'en haut, la Teshuva d'en bas, etc. Donc on fera un petit rappel sur ça pendant une petite demi-heure, et après Bezrat Hashem, on continuera le chapitre 10 dans lequel on expliquera plus longuement le concept de l'étude de la halakha dans tout ça, enfin beaucoup de choses intéressantes.
En quoi le fait de comprendre qu'une avera n'a pas de sens, est inutile, etc. En quoi, et de pas recommencer parce qu'on a compris, en quoi ça pardonne?
Alors, c'est très simple, je t'explique, parce que le défaut principal, le problème principal de cette avera, elle touche principalement le cerveau.
Oui.
C'est-à-dire, nous, on croit que...
Donc, on a réparé pour le cerveau.
Donc on a le cerveau.
Ou alors, est-ce qu'on peut dire que la personne qui a fait Teshuva, c'est plus la même personne?
Non, juste une seconde, à part ça, une petite parenthèse. Sachez que Maïmonide dit que sur 1000 personnes qui meurent, 999, comme ça il dit, ou 990, je crois.
Non.
Ils meurent à cause qu'ils ont trop de pertes. Parce que chaque fois qu'on a une perte,
enfin, on perd un peu de sa vie.
Et progressivement, à chaque fois, ça enlève un peu de l'éclat des yeux. De l'éclat des yeux, de la force. Et lui, il m'a dit que... Bon,
quand tu portes des lunettes,
il était chez les Arabes quand même, hein, là-bas.
C'est négatif. Quand tu portes des lunettes, alors ça...
Non, c'est l'éclat des yeux. L'éclat. Il y a un éclat dans les yeux. Et d'ailleurs, on le voit. D'accord, une lumière dans les yeux. Et plus la personne va le faire, et plus ils perdent cet éclat. C'est-à-dire qu'on voyait des gens à la fin de leur vie, ils ont défoncé, vous comprenez pourquoi.
Quand tu marches trop vite aussi. Alors, ça veut dire
oui, c'est écrit aussi que... Ouais, c'est écrit que tu marches vite. Donc ça veut dire que c'est pas seulement spirituel, c'est même physique. Même physique. Chaque fois qu'une personne a des relations, il perd sa santé. Parce qu'il sent qu'il se vide d'ailleurs. Il sent qu'il se vide. Pourquoi il sent qu'il se vide?
Relation toujours qui n'est pas...
Je pense que c'est pas ça dans le langage, la petite mort, c'est pour les femmes.
Pourquoi le fait de comprendre que cette avéra n'a pas de sens et que tu recommences pas, en quoi ça te pardonne?
Parce que le défaut principal, c'est fait dans la tête.
Oui, mais en quoi
je veux dire plus que ça, c'est même pas une avéra minatora. Ça, cette avéra, s'il n'y a pas eu de relation, c'est même pas une avéra minatora. Minatora, c'est pas une avéra.
De quoi?
Ah bon?
Oui. Minatora, c'est-à-dire strictement... Parler, il y a beaucoup qui pensent que c'est même pas une avéra de la Torah.
Mais quoi?
Non, mais tu vois que c'est aussi grave des rabbanan que...
Mais alors, pourquoi Onan est...
Non,
mais...
d'accord.
Ouais, mais ça a pas plu à Dieu.
Onan, c'est autre chose. Non. Onan, c'est autre chose. Onan, ils avaient des relations, mais ils s'assuraient pour qu'il n'y ait pas de... Pour que ça n'aboutisse, enfin, pour qu'il n'y ait pas de...
Quelqu'un, par exemple, qui cambriole une banque.
Qui va?
Qui cambriole une banque. Il prend 1 milliard d'euros. D'accord. Il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est complètement aberrant.
Bon.
Mais peut-être qu'il va sortir au bout de 20 ans. Mais les milliards qu'il a piqué, il a piqué.
Tu as raison.
C'est Tony Lee. Non, alors que là, non.
Ah non, ouais, mais on sait pas
là, non. Là, il va encore. Être pardonné aussi.
Il reste...
Non, alors, il va être pardonné sur, il va être pardonné sur tout ce qui n'est pas lié à une autre personne. Mais sur, bon, c'est un autre sujet, ça. Hein. Mais tout ce qui est lié à une autre personne, il faut qu'il parte du monde.
Il veut retrouver le garage.
Tant que par exemple, si une personne a donné...
Il a pas fait d'adultère.
Si une personne, par exemple, a commis l'adultère, et qu'il a donné naissance à un enfant, la sentie compte, c'est que cet enfant doit mourir.
Il n'a pas eu le temps de mettre l'argent derrière.
Il est mamzer, son enfant.
Il l'a raconté. Il doit mourir.
Il se perpétue de mamzer en mamzer.
S'il meurt pas, cet enfant.
Il pas vu, il m'a pris dans le livre.
C'est une histoire, il y a plein d'histoires sur ça.
Non, parce que moi j'ai pensé à la chose.
Non, mais c'est un autre sujet.
J'ai pensé à autre chose. J'ai pensé que la personne qui a fait des choix. C'est vrai qu'elle a fait tout.
Là, honnêtement, je veux qu'on comprenne. On ne s'est pas du tout focalisé ici sur des avérotes dans lesquelles. Il y avait une... Parce que je pense que ça ne nous concerne pas, c'est ça que je ne me suis pas arrêté dessus. On s'est pas arrêté sur des avérotes qui ont impliqué d'autres... Qui ont impliqué une autre personne, une autre femme, etc. On s'est plus arrêté, et c'est d'ailleurs la majorité d'avérotes qui nous concernent, sur une avéra qui est personnelle. Et c'est ça qu'on te dit qu'il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Toute chose qu'on fait a forcément des répercussions. Les répercussions, c'est les anges qu'on crée autour de nous.
Et donc Pourquoi cette minatora c'est pas interdit?
Aujourd'hui c'est interdit.
Mais pourquoi il n'y a pas de...
Ça veut dire que c'est pas une des 613 mitzvot. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est interdit, minatora, oui, mais c'est pas une des 613 mitzvot. On apprend ça de... C'est pas une des 613
mitzvot. C'est pour ça pourtant que c'est des répercussions et que c'est plus grave que de...
Bien sûr.
Alors nous on tire ça.
C'est pas assimilable à...
On tire ça de la Gemara, évidemment. On tire ça de la Torah, mais c'est pas... Ça fait pas partie des 613 mitzvot. Non. Non. Par rapport à ça, oui. Ça touche au cerveau, oui. D'accord. Voilà.
Moi, j'avais vu que quelqu'un qui fait des chouva. Pourquoi il est pardonné? Parce que c'est plus la même personne. Et que l'ancienne personne.
Pas bizarre, oui.
Et que l'ancienne personne, elle est nistar. Tu comprends? Donc.
Oui, mais ça change pas ça.
Par exemple, le jour.
Oui, mais ça change pas ça, parce que là, il va plus loin que ça. Ça marche à la limite sur des membres généraux du corps. Mais quand tu as touché au cerveau, quand tu as touché à ce qu'il y a de plus fort... Encore une fois, c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, lorsqu'une personne fait une avéra, on a expliqué avant, il crée des nuages. Mais c'est les nuages, finalement, c'est quelque chose d'externe. Donc puisque c'est externe, on peut s'imaginer qu'il y a quelqu'un avec un coup de baguette qui enlève tout ce qu'il y a, les nuages. Là, le problème de cette avéra, c'est que c'est pas externe. Le dommage est interne. C'est ce qui retourne à l'intérieur. Et c'est ce qui fait qu'après on a du mal à faire une bonne fila, du mal à étudier la Torah, du mal à comprendre. du mal à être intéressé, du mal à vibrer, du mal à vibrer. Et c'est un truc, c'est ça le tikkun. C'est pas de secret, le tikkun c'est l'être dans la tête. Quand on répare la tête, c'est ça le tikkun.